Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Jean-Baptiste Marchand-Harvier qui a créé WP Rocket, un plugin destiné à WordPress qui est le logiciel le plus répandu pour créer et faire tourner des sites internet. En gros, WordPress fait tourner un tiers des sites sur tout internet, c'est assez énorme. En 7 ans, WP Rocket est devenu un vrai succès puisqu'il est aujourd'hui installé sur plus d'un million de sites sur le web. Vous pourriez vous dire « Oh là là, ça fait beaucoup de jargon tout ça », mais on vous explique tout, à peu près, bien, j'espère, dans cet épisode. Jean-Baptiste nous raconte comment ils ont réussi avec son associé Jonathan à gagner en notoriété en partant de rien et comment ils arrivent aujourd'hui à faire travailler 30 salariés partout dans le monde sans aucun bureau puisque WP Rocket est ce qu'on appelle une entreprise distribuée, distributed en anglais, en gros dont les salariés évoluent tous en télétravail. Un paramètre de plus en plus important à prendre en compte pour les entreprises, surtout à l'heure du confinement et du coronavirus. Vous-même, vous savez, vous l'avez sans doute vécu. Si vous aimez Histoire de succès, j'ai besoin de vous pour trois choses. Tout d'abord, inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous mettrai un lien direct dans les notes de cet épisode. C'est primordial pour moi de pouvoir vous joindre directement à l'heure où les algorithmes des réseaux sociaux sont un peu capricieux. Je vous écrirai régulièrement pour vous donner des nouvelles du podcast et plus généralement de mes projets. Ensuite, si vous avez un Mac ou un iPhone ou un iPad, allez donner une bonne note à ce podcast en tapant Histoire de succès directement dans l'application Apple Podcast. 5 étoiles, un commentaire sympa, ça me permet de voir si vous aimez mon travail et ça permet à Histoire de succès de gagner en visibilité dans le classement d'Apple Podcast. Enfin, dernière chose, venez mettre directement un commentaire sur cet épisode sur le site www.histoireavecunsdesucces.com. Ça vous prendra 2 petites minutes et ça me permettra d'avoir un retour de votre part. Un grand merci d'avance, j'espère que cet épisode vous plaira. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne écoute en compagnie de Jean-Baptiste. On est avec Jean-Baptiste Marchand. Salut Jean-Baptiste, comment ça va ?
Salut, bah écoute, ça va très bien toi ?
Bah ça va très bien. T'es toujours confiné toi ? En fait, t'es confiné toute ta vie parce que tu vas nous expliquer un petit peu, mais en gros, vous êtes une boîte, distributed, c'est ça, remote ?
Ouais, distribué, je crois, c'est la traduction officielle. On travaille à distance depuis notre création. Et donc, ouais, on est en confinement, en tout cas pour le travail, depuis de nombreuses années.
Ok. Pour expliquer un petit peu, et tu me dis si je me trompe, hein, mais vous avez monté il y a maintenant 6 ou 7 ans de ça, un logiciel qui est un plugin sur WordPress. WordPress qui est le plus gros, si vous connaissez pas WordPress, c'est le plus gros logiciel de gestion de contenu sur Internet, qui gère combien de pourcents ? C'est fou, c'est 30% non, c'est ça, des sites
ouais,
Internet ?
Ouais, même plus, ça augmente tous les mois. Je crois qu'on est à près de 35% là, c'est aujourd'hui, donc c'est, voilà. C'est monstrueux. Ouais.
Le truc fait tourner 35% des sites internet sur internet. C'est vraiment n'importe quoi. Et donc, vous avez monté ce logiciel avec un de tes associés. Vous étiez même 3 associés.
On était 3, ouais. Au départ, on était 3, ouais.
Pour faire en sorte que les pages s'affichent plus vite. C'est pour vraiment les vulgariser très vite, mais c'est un logiciel de gestion de cache des pages. Et en fait, vous avez démarré tout ça. Alors c'est marrant parce que l'histoire veut que moi, à l'époque, je cherchais vraiment un logiciel. C'était un peu mon obsession du moment sur Mademoiselle, le faire en sorte que les pages s'affichent le plus vite possible. Et je galérais à trouver un logiciel, enfin un plugin de gestion de cache qui marchait très bien. Et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait des petits Français qui sortaient un truc, je me suis dit ah c'est trop bien, je vais l'installer. Installé sur Mademoiselle, ça marchait extrêmement bien par rapport à tout ce que je voulais faire. Et on en parlait juste avant de m'enregistrer. Et tu me disais, toi, de ton côté, tu te disais, mais vous êtes fou, pourquoi vous avez installé ce logiciel-là, Mademoiselle ? Vous êtes zinzin.
C'est un peu ça, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on était prêts. Hein, le logiciel fonctionnait bien, mais on était vraiment des tout premiers clients. On venait de se lancer à peine. Et on était dans une logique, ce qu'on appelle dans les startups le MVP, en gros le produit minimum viable. Alors, je m'excuse par avance pour tous les anglicismes que je vais faire, parce que la langue française est magnifique, mais on parle anglais toute la journée, et bon, quelquefois, le cerveau a un peu de mal à accrocher. Et notre idée, en fait, c'était de se dire, plutôt que de passer des années à développer un truc de fou, et puis qui sera peut-être dépassé parce que il y aura des concurrents, les choses avancent, on va essayer de lancer un truc simple qui fonctionne, et puis en fonction des retours des clients, on va le faire évoluer. Mais c'est vrai que la première version était pas exempt de plein de bugs, de plein de trucs qui fonctionnaient pas, mais on a avancé pour avoir quelque chose d'aujourd'hui beaucoup plus abouti.
Moi, ça m'allait bien, tu sais, un logiciel buggé, mais qui répondait exactement à mes trucs. Je pensais, avec le recul, je me disais, c'était cool. Et surtout, j'avais des Français en face de moi et un support français, en fait, qui était réactif aussi. Et je pense que c'était l'une des raisons pour lesquelles ça m'intéressait de tester ce logiciel-là. Mais on en reparlera un petit peu après. Avant ça, moi, j'aime bien demander à mes invités, à quoi tu ressemblais, Jean-Baptiste, quand tu avais 7-8 ans? Quel petit garçon t'étais?
J'espère que j'ai pas trop changé quelque part. Non, en fait, j'étais. Il y a eu deux choses. Je pense deux choses fortes dans ma vie. C'est les livres. J'étais plongé très souvent dans les livres. À l'époque, on n'avait pas de téléphone, donc il fallait un peu s'évader. Bien que je sois pas très vieux, mais on n'avait pas ces téléphones. La télévision était un petit peu interdite chez nous. Donc il y avait énormément de livres, de BD, des romans. Et puis beaucoup de sport. On est une famille de sportifs, et donc on passait énormément de temps à faire du sport.
Quel sport ?
Alors, il y en a eu beaucoup, mais le plus gros, c'est le ski, qui a occupé énormément de temps pour moi, puis pour d'autres personnes de ma famille. Ma sœur en a fait sa carrière. Moi, comme j'aime le dire, le ski a pas voulu de moi, en tout cas en compétition. J'ai passé plus tard mon monitorat de ski. Ce qui me permettait d'avoir un job d'été en hiver, qui était sympa. On était dehors, on faisait du ski, c'était génial, quoi.
Vous avez grandi où? À la montagne, j'imagine?
Pas du tout.
Ah ouais?
Okay. On aime bien faire les choses un peu différemment. Non, on est du nord-est, à Nancy, plus exactement. Ouais. Donc un petit peu loin des montagnes, bien qu'il y ait les Vosges pas très loin. Mes parents étaient mordus de ski, donc en fait, ils nous emmenaient tout le temps, toutes les vacances, tous les week-ends, en Haute-Savoie principalement. Et on en faisait tout le temps.
Ok. Et tu dis, ta sœur, c'est carrément... Elle en a fait sa carrière, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Elle était en équipe de France. Elle a été vice-championne du monde en 2009, je crois. Donc oui, elle a bien poussé le concept du ski assez loin.
Et qu'est-ce qui fait, toi, que ça a pas matché, tu penses?
Le talent, certainement. Non, je sais pas. C'est toujours un peu compliqué. En fait, on était mis quelque part à la compétition, on faisait du ski, et puis chez certains ça marche, moi ça marchait un peu moins, j'étais un peu stressé par la compète, et puis j'aimais pas spécialement ça, parce que déjà à l'époque et encore maintenant, j'aime pas trop la contrainte, et j'aime bien faire ce qui me plaît, et je préférais en fait aller skier hors piste, faire des bosses, plutôt que... en gros, pour résumer un petit peu ce qu'est la compétition de ski, donc t'as un tracé qui est défini, donc tu dois passer entre des portes, première contrainte. Et la deuxième contrainte, c'est le temps. En fait, tu fais une descente d'environ 1 minute, mais pour la faire, il faut que t'attendes peut-être 2 heures en haut, t'as super froid, il y a du vent, t'as une espèce de combinaison hyper fine, t'es pas bien en fait. Et tout ça pour descendre pendant 2 minutes et puis pour voir que t'es... dernier ou avant-dernier ou au milieu ou 10, et puis bon, c'est, au final c'est pas hyper plaisant.
Ouais, tu t'es dit bon, c'est pas pour moi, je vais faire autre chose, quoi.
Ouais, exactement.
Et tu parlais de livres, c'était quoi tes livres un peu de référence?
Je t'avoue que je sais plus trop. Okay. Non, il y a eu beaucoup les Harry Potter, mais à l'époque où c'était pas cool de lire Harry Potter, enfin, vraiment, en fait on m'a offert le premier. Alors, je dois t'avouer que je suis très mauvais dans les dates.
Mais t'as quel âge aujourd'hui?
31 ans.
Ok. Ouais, donc on t'a offert le premier quasiment quand c'est sorti, non?
Ouais, c'est ça. Il venait à peine de sortir. Personne connaissait, je connaissais pas. Et puis je trouvais ça génial. Et puis j'ai vu que le deuxième sortait. Enfin, j'ai lu beaucoup de ces livres fantastiques. Et c'est vrai que j'adorais ça. Les bandes dessinées énormément. Enfin, je trouve la littérature vraiment un échappatoire, et puis ça développe en fait ton imagination, tes rêves. Enfin, c'est hyper beau.
D'accord. Ok, donc ça c'est au moment où t'es, on va dire, en primaire, quoi. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu te dis, ok, l'informatique d'une manière générale ou ce qui touche aux ordinateurs ou au numérique, ça m'intéresse?
Alors c'est compliqué parce que j'ai jamais été trop. Enfin, ça m'a toujours intéressé ce côté. Technologique en tout cas, mais plus c'était au début, moi c'était les jeux vidéo, enfin les ordinateurs c'était par les jeux, et c'était trop bien.
Tu joues à quoi?
C'était des vieux jeux sur un. Alors, c'était, si t'as dû connaître ça, c'était un peu plus âgé, c'était un Apple IIe, donc c'était les tout premiers Apple avec un écran vert. En fait, tu pouvais pas faire grand chose, t'avais des espèces de Tetris, des jeux de. Des click and touch, je crois que ça s'appelle comme ça, où tu devais, c'était des aventures en fait, tu touchais et t'avançais, et puis au fur et à mesure ça s'est développé.
C'était point and click, c'est ça?
Ouais, point and click, ouais. Merci pour ta rigueur. J'en faisais beaucoup, et puis je me suis un peu lié d'amitié avec la personne qui s'occupait de la salle informatique dans notre au primaire, au collège. En fait, on avait avec quelques amis, le privilège, on avait le droit pendant les récréations d'aller dans sa salle informatique, et puis on jouait en réseau. Et surtout, on a découvert Internet là-bas. C'était vraiment le tout début d'Internet. On pouvait à l'époque presque faire le tour en fait d'Internet parce qu'il n'y avait pas grand-chose. mais c'était extraordinaire de voir ces trucs connectés, l'accès à l'information quasi illimité. Enfin, c'était génial.
C'était en quelle année ça?
Ça devait être vraiment avant les années 2000, 98, 99, quelque chose comme ça.
Et c'est clair que c'était vraiment le début, quoi. En tout cas, alors, en France, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas beaucoup de pages Internet.
On ne pouvait rien faire. C'était terrible, mais c'était quand même un début d'une ouverture. Tu avais un accès quelque part statique à l'actualité qui était intéressante parce que, en fait, avant, la seule manière, alors, c'était les journaux, mais... C'était un peu différent. C'était la télévision qui a un flux continu ou la radio. Et là, en fait, tu pouvais voir de l'autre actualité, puis rechercher. Tu avais une question. Moi, c'est ça que je trouve fascinant aujourd'hui avec Internet. C'est que tu as une question, tu veux te former ou autre. Tu as YouTube, tu as Google. C'est extraordinaire tout ce qu'on peut apprendre grâce à ça.
OK. Donc ça, c'est collège, c'est ça? Tu découvres l'Internet au collège?
Ouais, primaire, collège, ouais.
OK. ce que je cherche à comprendre après, c'est qu'est-ce qui t'a... Parce que si je me trompe pas, avant de monter WP Rocket, t'as bossé dans une agence SEO, c'est ça?
Ouais, exactement.
Ok.
Alors, faut faire un énorme bond dans le temps.
Non, mais on n'est pas obligé de faire un énorme bond dans le temps, justement, parce que j'ai pas forcément envie de faire un énorme bond dans le temps, mais j'aimerais bien essayer de comprendre ce qui t'amène, toi, de cette découverte d'Internet là, à aller bosser dans une agence digitale, peut-être 10 ans plus tard, quoi.
Ouais. On va essayer de reconstruire le passé. Il y a eu plusieurs choses. La première chose, en fait, j'ai découvert un truc qui me plaisait bien dans l'informatique, c'était le côté hack, mais dans, on va dire dans la bonne vision du truc, c'est que tu pouvais un peu détourner le système, mais pour t'amuser. Donc en gros, nous, notre grand jeu au collège, c'était de pouvoir accéder à Internet quand on pouvait pas. En gros, t'avais des ordinateurs qui étaient connectés à Internet mais qui étaient bloqués, et nous, on arrivait à trouver des solutions pour y accéder quand même. Donc on se sentait un peu des bandits parce qu'on accédait à Internet. Alors, c'est ce qui fait assez rire aujourd'hui. Et puis après, toujours dans les jeux vidéo, on avait réussi à détourner le truc pour pouvoir installer. À l'époque, c'était Quake. Alors c'était plus au lycée. Mais c'était terrible parce que le système était fait pour que le jeu se désinstalle à chaque fois que l'ordinateur redémarre. Donc c'était terrible. À chaque fois, on avait une heure de pause. Il fallait qu'on court dans la salle où il y avait les ordinateurs pour réinstaller le truc. Ça mettait une demi-heure à télécharger, puis on pouvait jouer pour 10 minutes, et puis la récré était finie, quoi. Et donc c'était ce côté un peu détourné qui me plaisait à l'époque, et quelque part de s'ouvrir le champ des possibles. Et de la norme, de la règle, tout en restant dans la légalité. Mm-hmm. mais de un peu détourné. Et ça, ça me plaisait bien. Et hyper tôt, au lycée en tout cas, j'ai eu la conviction que je voulais créer quelque chose. Je savais pas quoi à l'époque, mais j'ai toujours senti ce truc. Je savais que j'allais faire, créer. Je savais pas quoi. Ça allait pas être artistique parce que j'étais pas du tout doué là-dessus. Je me suis mis à mettre guitare, mais c'était pas très satisfaisant comme résultat.
Est-ce que tu t'es mis à la guitare pour pécho les filles?
Ouais, bah forcément. Ouais. Mais elles sont toujours là, mais elles restent dans la house. Comme tout ado, hein, tu te fais pousser les cheveux, t'écoutes Nirvana et puis tu te mets à la guitare, puis en fait tu te rends compte, tu deviens pas Nirvana comme ça, quoi. Faut travailler, faut bouffer. Mais c'était sympa.
Pardon, je t'ai coupé. Tu disais que après ça, justement, tu avais la conviction de créer que tu allais créer quelque chose de artistique.
Oui, pas artistique. Enfin, c'était hors du champ parce que c'était pas mon sujet. Mais et c'est là que j'avais trouvé dans Internet un truc que je trouvais passionnant. C'était la facilité à créer. C'est-à-dire que t'as une idée. Alors à l'époque, c'était plus compliqué. Aujourd'hui, c'est encore plus simple. Mais t'as une idée. T'as pas besoin d'être fils de milliardaire ou d'avoir plein de contacts en fait pour lancer ton truc un peu facile et puis voir que ça marchait. À l'époque, je crois que j'étais en première et c'était la grande mode des sudoku, je sais pas si tu te souviens.
Ouais, si.
Tout le monde faisait ça. Et sauf que c'était sur un petit bout de papier et je me suis dit putain, mais ce serait génial d'avoir ça sur internet et tout, que tu aies un site où tu puisses les lister, tu aies les réponses. Et j'avais commencé à réfléchir là-dessus, et puis l'idée s'est jamais poursuivie comme plein d'idées que t'as fait quelque part. Tu dis, ah, c'est génial, et puis 3 jours après, tu passes sur un autre truc, tu te remets la guitare. donc j'étais toujours dans, et je voyais en fait dans Internet ou dans ces sujets-là la facilité quelque part de créer quelque chose sans monter une usine ou je ne sais quoi pour créer quoi. Et donc ça m'a toujours poursuivi et j'étais convaincu que je voulais faire un truc comme ça. Quelques années plus tard, j'ai eu une idée qui s'avère être vraiment mauvaise, mais c'était quand même un autre truc. C'était de mettre en, on était vraiment au tout début de la mise en relation sur Internet. Souvent dire les marketplaces, les Airbnb aujourd'hui où tu mets en relation en fait des personnes. Et j'avais l'idée de faire ça sur les prestataires de services, la garde d'enfants, les femmes de ménage, etc. De dire mais on est toujours un peu à l'ancienne, à aller à la boulangerie où il y a des annonces, mais c'est pas forcément bien. Ce serait vachement bien qu'on groupe ça, qu'on ait un système de notation, de commentaires pour aider les gens. Et puis pareil, j'ai poursuivi le truc, mais pas forcément aller au bout. Et ça m'a amené en fait à comprendre comment un site internet fonctionne et à se dire bah, ça doit être sympa en fait d'en créer. Ça, il faut que j'apprenne à faire ces trucs-là parce que je vois que j'ai été toujours bloqué dans mes idées parce qu'il fait que je trouve une sorte d'associé technique ou quelqu'un qui m'aide en fait qu'on travaille ensemble. Mais t'avais pas toujours la même vision. C'était toujours compliqué en plus de dépendre de quelqu'un qui eux ils étaient plus dans les études quoi. Ce que je comprends, moi c'était pas trop ma passion.
Parce que c'était à quel moment de ta vie à ce moment-là t'étais déjà étudiant?
Alors ça sur ce site-là j'étais en terminale et le début de la fac de droit.
Ok. Ouais, t'as fait une fac de droit après ton bac.
Ouais, fallait bien faire quelque chose. Et ouais, parce que j'étais bon nulle part. Enfin j'étais vraiment pas le cancre dernier de la classe, mais le cancre moyen. Quoi.
Mais l'école. Mais pourquoi? Parce que l'école t'intéressait pas vraiment? L'école avait du mal à t'intéresser ou?
Ah oui, depuis le début, j'ai jamais été scolaire. J'en fais encore des cauchemars aujourd'hui de l'école. Je me réveille en me disant j'ai un partiel demain, j'ai rien révisé.
Encore aujourd'hui. Encore
ah aujourd'hui. Oui, ça m'arrive. Une fois tous les 2 mois, de me réveiller en sueur, en me disant putain, demain j'ai un partiel de droit constitutionnel ou une interro de maths, j'ai pas préparé. Je vais encore avoir une sale note.
Ok.
Je pense que l'école, c'est ce qui est très difficile, c'est de faire un concept général, l'école, un enseignement, pour des personnalités qui sont différentes. Pour beaucoup de personnes, ça fonctionne. Ça a peut-être fonctionné pour toi, l'école. T'as peut-être trouvé des choses qui t'intéressent.
Bof. En tout cas, jusqu'au bac. Post-bac, ouais, ça commence à devenir intéressant. Mais avant, ouais, non, c'était bof.
Ouais. Ouais, parce que t'as plus le choix, finalement, dans ce que tu cherches, dans ce que tu, tu as le choix, quelque part. Ouais, et me concernant, j'ai jamais été scolaire dans le sens où l'apprentissage, pour moi, c'était un truc terrible. D'apprendre un truc par cœur et de le répéter, c'était très très compliqué. Et j'ai ce défaut-là, c'est que j'aime bien faire les choses qui me plaisent. Et le plaisir, en tout cas, le choix était hyper important. Et dans l'école, j'avais pas ça, et ça m'embêtait énormément.
T'es sûr que c'est un défaut?
Ça peut l'être, parce que la vie est faite de contraintes. Donc, si à un moment les contraintes, tu les acceptes pas, tu peux avoir, ça peut être compliqué. Oui, et donc j'ai été toujours très moyen, mais intéressé par différents sujets, toujours un peu dans le côté historique, littérature, c'est des trucs qui me plaisaient. Donc quelque part le droit allier un peu tout ça. En plus, je savais que ça me permettait plus tard de faire quelque chose. Enfin, ça t'ouvre pas mal de portes.
Mais pour le coup, toi qui disais que t'aimais pas bachoter, apprendre par cœur, t'as vraiment choisi la pire filière, quoi.
On n'est pas. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est un très. C'est une grande spécialité du droit, mais c'est pour ça que j'ai fait des études désastreuses en droit. J'ai réussi tant bien que mal à passer grâce au sport, à l'anglais, au truc qui te permettait d'avoir des points en plus, à l'oral, qui te permettait de moins apprendre par cœur puis faire des petites pirouettes qui te permettaient de sauver les apparences en tout cas, et qui m'a permis d'avancer péniblement au rattrapage à chaque fois des années machin. Mais
t'es quand même allé au bout de ton cursus, quoi.
Ouais, au bout d'une licence, okay. Tant bien que mal, quand même.
Ok. Ouais, donc pour revenir à ton idée de projet, justement, tu es à ce moment-là en terminale, c'est ça? Et tu te dis, il faut que j'apprenne à coder.
Pardon, je t'ai coupé, j'ai pas entendu ta question.
Non, je disais, tu te rends compte à ce moment-là qu'il faut que d'une manière ou d'une autre, tu te mettes un peu les mains dans le cambouis et que t'apprennes à coder, quoi.
Exactement. Exactement. Et c'est là, en plus, c'est ça qui était intéressant, que j'ai découvert WordPress, donc que tu as mentionné au début. Donc, je me suis dit, il faut que j'apprenne à faire des sites internet parce que c'est con, en fait, de pas savoir faire ce truc. Et j'adore. Enfin, je suis très curieux, et donc c'est pour ça aussi que l'information sur internet me plaît parce que sur le coup, c'est un flux d'informations continue. Donc, je me dis, il faut que j'apprenne à faire des sites. Et je commence à en faire du site à la con, enfin, vraiment tout et n'importe quoi sur de l'actualité, sur des trucs qui font un peu le buzz parce que c'est du truc facile qui te permet d'avoir du trafic, machin. Pas très glorieux, mais ça existait. Et il se trouve, et t'as dû aussi connaître ce sujet-là, que quand tu as un site internet, bah c'est bien, mais il faut que t'aies des gens qui viennent dessus. C'est l'intérêt du site internet. Je me suis dit, ok, comment on fait pour faire venir des gens sur ton site internet? Donc t'as creusé et puis tu cherches sur Google et tu te rends compte que c'est une discipline à part entière qui s'appelle le référencement naturel. Et j'ai commencé à creuser là-dessus et à en faire quelque part ma spécialité. Et donc j'en ai fait énormément, bien que c'est à la fois simple et compliqué, mais en étant un peu malin et comme j'étais pas bon développeur, ça me permettait tu pouvais bidouiller, entre guillemets, et avoir des très bons résultats. Et c'était des trucs qui étaient intéressants à l'époque.
Ok. C'est ça qui t'amène à travailler dans une agence plus tard, c'est ça?
Ouais, exactement. Parce qu'à un moment, tu te dis, c'est bien de bidouiller, de faire tes trucs à côté. Mais bon, il y a un moment, il faut rentrer dans la vie professionnelle, ne plus dépendre de tes parents. Il faut faire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant cette comment je suis rentré dans cette agence. En fait, j'avais un problème, c'est que je faisais mes sites à moi, j'avais des super bons résultats et je pense j'avais une compétence intéressante. Normalement, j'avais aucune expérience sur le papier professionnel. Pour un employeur, j'étais personne à part mes petits sites qui marchent bien. Et donc je savais pertinemment que c'était pas possible que je que je rentre dans cette, dans n'importe quelle agence, en fait. Partant de ce constat-là, je me suis dit il faut que je sois connu, hein, ou en tout cas reconnu par mes pairs, parce que c'est la meilleure façon. Et donc j'ai été toqué chez un blogueur, parce qu'à l'époque ça existait, les blogs, les gens écrivaient des trucs sur Internet.
C'est une belle époque.
Non mais c'est vrai, c'était incroyable, c'est les blogs. Enfin il y en a encore, mais c'était très différent. Et donc il y avait énormément de blogs sur le référencement où des personnes partageaient, en fait. On était vraiment dans cet esprit de partage. Et j'ai contacté cette personne en lui disant j'ai un article tout prêt sur, à l'époque je crois que c'était les réseaux sociaux. Est-ce que ça t'intéresse que je le publie chez toi? Donc c'était un système d'articles invités. Et puis on a eu un peu discuté. Puis je l'ai publié. Désolé, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Okay. J'avais postulé en fait dans une agence en question, celle où j'ai travaillé. J'avais eu aucune réponse. Et bon, ça me semblait tout à fait logique. Et donc, entre-temps, j'ai écrit cet article-là qui a été publié. C'était un peu une référence. Alors, pas l'article, la référence, mais le site en question. Et donc, il a été publié. Et puis, j'ai renvoyé un petit mail à l'employeur en disant « Ah, t'as vu, je viens de publier cet article-là. » Et puis, bien magie. Joué. Il m'a recontacté en me disant « Ah, ben ouais, c'est intéressant, viens faire un deuxième entretien. » Et j'ai été pris. Et morale et suite de l'histoire, c'est là où j'ai rencontré mon associé actuel. C'est là où on a un peu créé notre relation, où l'idée émergeait. Donc, toute cette histoire que j'ai aujourd'hui, elle est grâce à un article, en fait. Et j'ai toujours été convaincu du pouvoir de l'écriture, mais je le suis encore plus par des exemples de ma vie.
Ok. Et puis surtout, le fait que t'as fait cette compétence-là, toi tout seul, en dehors de tes heures de d'études, on va dire, quoi.
Oui, alors c'était ça mes études.
Ouais.
je passais énormément de temps à apprendre, parce que c'est un sujet hyper hyper complexe, et moi qui me passionnais. Ça a été une période un peu difficile parce que je travaillais vraiment énormément sur ces sujets-là. Par contre, j'étais très mauvais à la fac. J'étais assez fêtard. J'étais président du BDE, donc forcément, t'es la personne la moins sérieuse de la fac. Et donc, je passais pour un glandeur aux yeux de tout le monde. Et il y avait un certain, et c'est assez fréquent en droit, t'as une espèce de, alors c'est pas un mépris de classe, mais en tout cas un mépris de compétences, où t'as les personnes brillantes qui sont reconnues, qui disent, ah, ils ont une belle carrière d'avocat, et puis t'as les glandeurs, ou les apparents glandeurs, qui étaient comme moi, et puis j'ai d'autres amis qui étaient comme ça, et qui ont très bien réussi aussi. Et donc il y avait un certain mépris qui était pas forcément toujours facile à vivre, parce que tu bossais en fait comme un fou, mais t'avais pas encore des résultats.
La vie s'arrête pas à la fac de droit, c'est un peu ça le problème.
Ouais. Aux études, enfin les études c'est un bout de papier qui après, c'est des cartes en fait. Après à toi, comme dit notre cher Patrick, tout dépend ce que tu fais avec tes cartes, quoi.
Notre cher Patrick,
j'ai pas Patrick Bruel, tu te souviens plus peut-être. Grand joueur de poker, grand philosophe.
Ah, oui.
Il y avait une pub où tu voyais, je sais plus si c'était pour Winamax, où il avait des cartes pourries au poker. Il disait, l'important, c'est pas les cartes que tu as, c'est ce que t'en fais.
Putain, je t'avoue que je regarde plus assez la télé pour avoir les rêves des pubs de Patrick Buell qui joue au poker. Ceci dit, Patrick Buell qui joue au poker, j'ai la rêve, quoi, tu vois. Très bien, donc c'est dans ce moment-là que se fait un peu la jonction de ta deuxième carrière, en fait, c'est ça que tu me dis, c'est que tu rencontres Jonathan.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors il y avait deux, en fait, plusieurs trucs, c'est que tout s'est mêlé entre temps. La première chose, c'était quelque part le sentiment d'inutilité dans ton travail. Le référencement, c'est bien, mais à la fin de la journée, la valeur que tu crées, t'en tires quand même pas grand chose. Tu fais pas grand chose de bien en réalité. Tu t'inscris des sites dans des annuaires, tu fais des liens, t'optimises. Pardon. Mais au final, est-ce que t'as une réelle utilité? Pas trop. Premier sujet. Deuxième sujet, être employé. Alors, c'est un autre cauchemar. dans ces conditions-là, pour nous, c'est vrai que, et on s'est vachement retrouvé avec Jonathan là-dessus, c'était hyper difficile d'avoir un patron, d'avoir plein de règles qui nous semblaient pas forcément utiles, t'avais des horaires stricts, des choses un peu qui nous semblaient un peu idiotes finalement. Et donc on s'est un peu retrouvé là-dessus sur le côté un peu entrepreneuriat, et puis est venue cette idée elle est un peu arrivée toute seule, un peu aidée, et on s'est dit bah tiens, on va essayer de faire ce truc là, ça a l'air de marcher, on va le lancer comme ça pour essayer. En fait, on avait aucune idée et envie de créer une entreprise, enfin, on avait cette envie quelque part, mais aucune réel objectif en lançant ce truc-là. On s'est dit, tiens, on va essayer. On va essayer de faire un truc différent, simple, qui fonctionne, et puis on va voir où ça nous mène.
Et pour le coup, Jonathan était un peu le pendant technique que tu cherchais depuis des années.
Exactement.
Quoi.
Tout à fait. Lui, c'était vraiment le développeur, excellent développeur, et qui vraiment, c'est lui qui a créé tout ce système-là.
Et là où c'est intéressant, c'est que je pense que l'un des gros trucs qui a permis à WP Rocket de décoller à un moment donné, c'est aussi le SEO. Donc c'est-à-dire que c'est aussi le référencement, et c'est le travail que j'imagine t'as fait toi pour faire en sorte de référencer correctement le plugin comme plugin de cache, quoi, tout simplement.
Exactement. Ouais, c'était c'est clair que ça m'a bien aidé, bien qu'on n'ait pas fait trop de SEO. On a lancé un truc qui était hyper simple, qui était hyper chronophage, ça a hyper bien marché à l'époque. Pour nous faire connaître, en tout cas, je contactais toutes les personnes qui parlaient de WordPress, qui parlaient de ce système-là, en disant « Coucou, on vient de lancer ce produit-là. »
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On fait ça, on est un peu différent, on fait du support, on essaie de faire un truc simple. Est-ce que ça te dit de l'essayer? Je te donne une licence. Si tu t'aimes bien et que tu veux faire un article sur nous, c'est génial. Si tu veux pas, bah tant pis. Garde le plugin, comme ça, ça nous fera un site en plus. L'approche, je pense, était intéressante, et surtout, le produit était bien. Et donc ces personnes-là l'ont utilisé et nous ont recommandé, ce qui fait que très rapidement on a été propulsé, on a eu de la visibilité là-dessus, quoi.
Ok, je vais revenir un peu en arrière, mais de cette idée-là justement qui émerge entre vous, à l'idée de se lancer et de vraiment créer sa boîte, comment ça se passe? Parce que vous êtes salarié. Pour moi, l'un des trucs compliqués quand tu montes ta boîte et que t'es salarié, c'est que t'es salarié, j'imagine vous étiez tous les deux en CDI, j'imagine vous aviez tous les deux une chouette situation, j'imagine vous étiez plutôt bien payé, quoi, en tout cas.
Non, à l'époque, enfin après c'est toujours relatif le salaire. Je crois moi j'ai été payé 1 500 € par mois.
Ok.
Non, 1 700. Donc ce qui est
Oui, c'est pas une paye folle, voilà. Mais tu passes de 1 700 à potentiellement à rien, zéro. Quoi. Voilà.
Ah oui, vous savez, après, oui, c'est ça où il faut revenir, c'est que on a tous les deux démissionné avant qu'on lance ce produit-là, parce qu'en fait, on était blasés de ce système-là. Moi, j'avais toujours un peu des sites qui me rapportaient un peu d'argent, qui me permettaient à manger des patates, quoi.
Vous avez démissionné carrément. Vous avez même pas fait. Ouais. À l'époque, il y avait peut-être pas de rupture conventionnelle, non? Je sais, ça existait peut-être pas.
On aurait bien aimé, mais
C'était pas possible
par les employeurs.
Ok, donc vous aviez pas de chômage.
Non, pas de chômage, pas d'aide spéciale. Après, on n'a jamais été trop cherché là-dessus. Jonathan, il était assez connu dans l'écosystème WordPress, donc il faisait des missions de développement WordPress, ce qui lui permettait, pareil, de survivre. Moi, j'avais mes petits sites, des petites prestas SEO. Et ça a duré, je crois, à peu près 6 mois. Et c'est là aussi qu'a émergé cette idée-là. Et on s'est dit, bon, on va la développer. Et puis on va lancer ce truc. Et au début, on n'était pas à temps plein parce que même comme on n'avait pas de chômage, même si on avait des coûts très faibles de vie, il fallait quand même, faut manger quoi. Et donc on avait vraiment un strict minimum de travail pour nous permettre de survivre. Après, on n'était pas malheureux, bien au contraire. Et puis après, il commençait à y avoir un peu de ventes, ce qui nous a permis de se dire on peut se mettre à temps plein, on a un petit peu d'argent de côté, on sait que pendant un an on peut ne pas se payer, c'est pas grave.
Ok. Donc vous avez vraiment, donc pour moi ce que tu disais, c'est que l'un des points qui a permis un peu au truc de décoller quand il était encore tout petit, c'était effectivement d'aller toquer chez des blogueurs ou chez des personnes qui parlaient de l'environnement de WordPress, c'est ça?
Ouais, exactement. À cela que tu as, enfin, si t'as un produit pourri, c'est ce que font aujourd'hui les marques avec les influenceurs, dropshipping et compagnie. Si t'as un produit pourri, ça va pas forcément marcher. Ouais. C'est là-dessus où on s'est bien retrouvé avec Jonathan, c'est qu'on avait, on va dire, trois obsessions et qu'on a toujours, on est un peu obsédé, c'est la simplicité du produit. Pour nous, vraiment, c'était le... Et on a encore beaucoup de travail là-dessus. Pour nous, c'est vraiment le cœur du truc, parce que c'est un... je pense que les personnes qui écoutent ce podcast n'ont absolument pas compris à quoi sert notre logiciel. Et il se trouve que... Florence, mes parents savent toujours pas ce que je fais. C'est très obscur.
Mais comment tu l'expliques? Comment tu l'expliquerais simplement alors?
Bah, ce qu'on dit, c'est qu'on fait en sorte que les sites internet soient chargés plus rapidement. Mais pour quelqu'un qui n'a pas de site internet, il a vraiment du mal à comprendre. Mais pourquoi ça quoi? Si t'es pas dans cette problématique, c'est difficile à comprendre. Pourquoi j'ai besoin de ce truc-là? Et qu'est-ce que tu fais concrètement? Après, tu rentres un peu dans le technique. Et c'est assez difficile. Et donc, pour nous, c'était...
Pour expliquer simplement, pour moi, l'un des trucs qui fait que c'est important que ta page se charge vite, c'est que, déjà, Google te référence mieux. Donc là, on revient à cette histoire de référencement naturel et de pouvoir faire en sorte que les gens viennent sur ton site. Et deux, et notamment, ça marche surtout pour les sites de e-commerce, c'est que plus ta page se charge vite, il y a des stats qui montrent que plus ta page se charge vite, plus ton taux de conversion monte, en fait. Les gens n'ont pas le temps sur Internet.
Ouais. Ce qui est terrible, c'est terrible. C'est pour une personne comme moi qui a une passion du temps et de prendre le temps de développer des trucs pour que tout aille plus vite, c'est un désastre. Mais oui, en fait, il y a plein d'études qui l'ont montré, et puis même tu le ressens, en fait. Les gens n'aiment pas attendre. Et donc, quand tu vas sur un site internet et qu'il met 15 secondes à charger, en fait, tu te barres. Et tu vas voir le concurrent. Donc, c'est ce problème-là qu'on essaye de résoudre via des systèmes automatiques.
Ok. Je t'ai coupé, mais je ne sais plus où on en était. Attends, pardon.
Ah oui, c'est la simplicité. Oui. C'est important. En gros, et notamment avec WordPress, donc WordPress, c'est un outil qui te permet de créer des sites internet. Et ce qui est merveilleux avec cet outil-là, c'est que tu n'as pas besoin d'être développeur pour créer ton site internet. Et donc, le corollaire, c'est que n'importe qui va l'utiliser. Et il y a une grande majorité qui est des personnes qui sont pas forcément, qui n'ont pas de compétences techniques. Et donc, si toi, tu arrives avec un logiciel hyper technique où tu as 50 000 options, on s'est dit, mais c'est pas la bonne approche. Nous sommes les experts sur la performance. On sait ce qu'il faut faire. Notre but, c'est de minimiser au maximum les actions de l'utilisateur pour que en fait, soit le plus fluide possible. L'utilisateur, il n'a pas besoin de configurer, il n'a pas besoin de comprendre comment les choses fonctionnent. Il veut que ça marche, en fait, qu'il appuie sur un bouton, que son site charge plus rapidement. Et donc, c'est cette approche qu'on a essayé d'avoir et qu'on essaye tout le temps d'avoir, c'est de dire, OK, comment on peut simplifier la vie des utilisateurs? Donc ça, c'était le premier truc. Deuxième truc, c'était le support. Pour nous, c'était vraiment un truc hyper important. J'arrive plus à me souvenir pourquoi, mais enfin, comment est venue cette idée de support? Mais c'est vrai que pour nous, c'était absolument essentiel, surtout en France, où on a une super mauvaise image du support. C'est en train un peu de changer, mais à l'époque, ta relation avec le support, c'est quand ton Internet, il merde, t'appelles, bon, je ne vais pas citer les marques, mais t'appelles ton fournisseur d'accès, et puis c'est un enfer pas possible, la personne ne comprend pas. Enfin, Et t'as jamais de solution. Tu dis bon.
Redémarrer votre box. C'est voilà, pas
50 fois que je l'ai redémarré. Est-ce que votre numéro? Enfin voilà. Et donc c'est terrible. Et on s'est dit bah non, on essaye de penser utilisateurs et les aider et d'être hyper réactifs parce que c'est comme ça que ça va marcher. Et petite anecdote, ça nous a surpris, mais là donc on a été un événement WordPress, donc c'est une conférence autour de ça. Et les personnes venaient nous féliciter, non pas pour le produit, mais pour le support. Ils disaient « Ah, c'est trop bien, j'ai eu une réponse en une heure, et puis c'était clair. » Et le produit, il marche bien. et c'est vrai que ça nous a vraiment convaincus de dire « Il faut vraiment qu'on force là-dessus. » Et c'est ça qui va nous aider et qui nous différencie. Puis c'est important de se différencier. Et la rapidité en fait, comme on vend de la performance, c'est notre métier de rendre les trucs plus rapides. Bah ok, c'est assez simple et c'est ça qui est bien avec notre métier, c'est que c'est tangible, c'est objectif. C'est on met en place des trucs, on peut mesurer est-ce que c'est plus rapide avant, après. Et puis bah, c'est simple.
Avant de parler plus concrètement de la boîte, il y a un truc que t'as dit qui m'a fait tilt là il y a 3 minutes, mais tu m'as dit pour quelqu'un qui aime prendre le temps et qui aime apprécier le temps. C'est quand même paradoxal de créer ce logiciel pour gagner du temps, justement. Comment ça se concrétise chez toi, cet aspect-là?
Bon, déjà, j'ai résolu ce problème-là. Ce paradoxe, c'est que, et c'est ce qu'on dit quand on recrute les personnes, qu'on fait le premier entretien, je leur dis, en fait, c'est notre mission en tant qu'entreprise, c'est d'aider les personnes qui ont des sites à les rendre plus rapides. Et donc, on va aider ces personnes-là, on va aider des magazines, des sites e-commerce, parce qu'ils en ont besoin. Et deuxième truc, si on dit, on a des millions de sites qui tournent avec nos logiciels, donc potentiellement, c'est des centaines de millions de personnes qui visitent les sites Internet qui sont plus rapides grâce à nous. Et donc, à ces gens-là, on leur donne quelques secondes par jour. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'ils en font de ce temps. Et c'est là où je me suis un peu réconcilié philosophiquement, de comptoir, bien sûr, avec cette question de temps, c'est qu'on leur donne du temps, mais après, c'est à eux de bien l'utiliser. Et après, libre à eux de l'utiliser pour faire ce qu'ils veulent et pour prendre plus de temps, en fait.
C'est important pour toi, et notamment dans ta gestion de la boîte, et pour vous, j'imagine, peut-être avec Jonathan, dans la gestion de la boîte, cette notion de temps et de récupérer son temps et de bien utiliser son temps.
Bien utiliser, oui. Alors, je ne sais pas si c'est trop... Je ne pense pas que ce soit trop une culture d'entreprise. C'est plus c'est quelque chose de très personnel, je pense, le temps. En fait, je trouve que c'est une question très... Enfin, c'est la question du temps, elle est hyper... elle est à la fois très complexe, mais très simple, dans le sens où dans la vie, on n'est que de passage. On a 80 ans, mais peut-être qu'on a dans 6 mois ou dans 15 jours, on ne sera plus là. Et en fait, quand tu concrétises et t'objectives ça, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et qu'est-ce que je vais faire de mon temps et comment je peux soit le rendre utile, soit... Enfin, c'est une question, quelque part, de l'assumer, ton temps, de dire... regarder Netflix pendant un dimanche, mais c'est pas grave, j'ai eu plaisir à faire ça. En fait, c'est simplement, je pense, le plus important, c'est d'assumer qui on est, d'assumer comment on utilise notre temps qui est de toute façon fini et qui va s'arrêter à un moment.
Alors, je sais pas si tu connais ce bouquin qui est un bouquin de Fabien Olicard. J'en profite pour le placer là parce que en vrai, je l'ai eu en interview dans mes tout premiers épisodes d'Histoire de succès, ouais. Et son bouquin n'était pas sorti. Et en fait, j'ai regretté après. J'aimerais bien refaire à l'occasion un épisode avec lui parce que j'avais pas lu le bouquin. Mais en fait, il a fait un bouquin qui s'appelle Votre temps est infini et qui est une expérience personnelle de comment lui, en tant que grand procrastinateur, etc., a fait pour avancer dans son rapport au temps. Et en fait, si vous avez pas, si que ce soit toi, Jean-Baptiste, ou vous, très chers auditeurs ou auditrice, vous avez un rapport un peu compliqué à votre temps, je trouve que vraiment c'est hyper déculpabilisant. Et comme tu dis, justement, l'idée n'est pas de transformer tout en hyper-productivité, etc., qui est un peu le mal du siècle, quoi, mais plutôt d'assumer son temps et de se dire, en fait, j'ai envie de chiller devant Netflix tout le dimanche, et je vais le faire, mais je vais kiffer au moins, tu vois.
Exactement. Il faut, je pense que c'est hyper, ça fait partie de ton équilibre, et il faut s'emmerder dans la vie. Il faut passer du temps à ne rien faire, à penser, à contempler en fait la vie quelque part, à ce côté contemplatif, tu vois, dans la nature, dans la forêt, il y a des tonnes de trucs à voir partout en fait.
Ok. Passons à, un peu plus à l'organisation de WP Rocket, mais enfin en tout cas, alors vous, WP Rocket, c'est votre logiciel de cache. Vous avez lancé un autre logiciel qui s'appelle Imagify pour compresser les images. Donc là, on revient aussi à une histoire de charger les pages plus vite. Moins les images sont lourdes, plus la page charge vite. Si vous savez pas de quoi je parle, suivez-moi, peu importe, suivez. Mais et puis vous avez créé donc cette boîte qui s'appelle WP Media aujourd'hui, c'est ça, qui regroupe un petit peu les deux marques.
Exactement. En fait, c'est alors quand on s'est lancé, on s'est dit bon bah aujourd'hui on lance WP Rocket, ce produit-là. Néanmoins, on avait je pense qu'on avait la conviction qu'on aurait d'autres produits, enfin qu'on voulait en tout cas être ouvert à d'autres choses. On s'est dit bon bah il faut qu'on appelle notre boîte différemment. Par contre, on n'avait aucune idée de comment appeler cette boîte. Donc le WP, ça vient de WordPress, donc la majorité des boîtes qui font du WordPress s'appellent WP. Et puis on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit t'as une idée d'un nom? Non, bon, on a essayé des trucs, c'est bon, média, ouais, ça sonne bien, ça fait sérieux, bien qu'on fasse pas du tout du média. On s'est dit bon, allez, vendu. Et aujourd'hui, alors c'est un gros emmerde parce que en image de marque, c'est hyper difficile à travailler ce nom de marque qu'on se trimballe. Donc on est en train de travailler, de réfléchir à le changer.
Okay.
Et donc on a lancé ce premier produit WP Rocket et c'est grâce au support qu'on a lancé notre deuxième produit Imagify, qui est sur l'optimisation des images, donc les rendre plus légères, parce qu'on avait énormément de clients qui nous disaient ouais bah c'est votre produit, il est super, mon site est plus rapide, par contre j'ai encore plein d'images qui sont très lourdes, comment je fais? Donc on a regardé, on lui a donné des solutions qui existaient, mais c'était pas forcément idéal, et ça nous embêtait de donner des trucs où il n'y a pas forcément une expérience utilisateur qui soit géniale. Et on s'est dit bon bah donne-nous 6 mois, et puis on revient dans 6 mois et on te propose une solution qui sera différente. Et puis bah on l'a fait, et ça marche bien, et c'est ce qu'on fait. Du coup on optimise les images, et donc on a restructuré un peu l'entreprise enfin un truc un peu plus gros, en se disant bah on est une entreprise dont notre mission c'est d'accélérer les sites internet, et donc on a plusieurs produits pour faire ça, plusieurs solutions.
OK. Vous avez, alors ça marche, on en a pas parlé, mais ça marche, c'est un vrai succès. Vous avez combien, plus d'un million de sites
Ouais, on a plus d'un million. Alors, j'ai prends des notes, parce que s'il y a un truc où j'ai un énorme défaut, c'est la mémoire des chiffres.
OK.
On a 130 000 clients sur WP Rocket, et on a sur l'optimisation d'images, on a presque 2 milliards d'images optimisées. On est à presque 3 millions d'images optimisées tous les jours.
Et aujourd'hui, vous êtes une boîte de combien de salariés? Alors vous...
On est 32.
32, et vous n'avez pas de bureau. C'est l'un des gros, l'une de vos caractéristiques. Alors qui, c'est marrant parce que c'est en train de revenir un peu au goût du jour là aujourd'hui avec le Covid.
La bonne, on est ringard aujourd'hui de pas avoir de bureau. On est des éternels incompris, en fait.
Mais c'est intéressant, en fait, cette philosophie qui a été votre philosophie d'entrée, en fait. Vraiment.
Ouais. Alors, qui était pas le cas au début. Enfin, quand on s'est lancé, de toute façon, on n'avait pas de quoi nous payer. Donc, on n'allait pas avoir des bureaux et des personnes pour aider. Et on ne pouvait pas embaucher des personnes. Et puis, on voyait un petit peu ces organisations. Mais on n'était pas convaincus parce qu'on avait ce modèle français, même si on se fait en faire de l'anti-France primaire débile, de se dire, ouais, mais en fait, il faut contrôler ton salarié, il faut que tu sois à côté pour être sûr qu'il travaille, parce que sinon, il va pas travailler, forcément. Mais on n'a jamais pu l'expérimenter. Et on est parti aux US avec mon associé, on est à 3 mois dans la Silicon Valley pour se la jouer américain. Et on a vu, en fait, que là-bas, enfin, c'était une autre façon de travailler. C'était beaucoup plus sur la confiance, beaucoup plus sur quelque part l'équité, sur la vision d'entreprise. Et on a vu, mais en fait, mais il y en a plein qui travaillent tous à distance, et ça marche hyper bien. Donc il y a aucune raison qu'on ait un bureau, surtout qu'on fait un métier un peu technique, un peu spécifique. S'il faut qu'on recrute à Lyon, on va galérer. Du coup, en fait, quand on poste des annonces, alors, sauf certaines spécificités où on a besoin d'un créneau horaire spécifique, on ouvre à tout le monde en fait, et donc c'est pour ça qu'on a des personnes qui sont à Los Angeles, au Mexique, en Inde.
Partout. Quand tu veux dire un créneau horaire, c'est-à-dire c'est pour avoir la possibilité de pouvoir avoir un service de 24 heures sur 24, c'est ça?
Exactement, et surtout on a des clients partout dans le monde, donc on est une multinationale.
Bah oui, mais il faut le dire. Hein. Non mais j'ai oublié ce point-là, mais vous, l'un des gros shifts de la boîte, c'est quand vous avez décidé d'internationaliser le produit, quoi, parce qu'à la base, votre produit, il était que français, quoi, que en français.
Ouais. Ouais, parce qu'on était débutants, enfin, on lançait ce premier truc, on se dira, faut pas que ce soit trop complexe déjà, en plus, on est nul en anglais, enfin, pas très bon, et surtout, on avait l'impression que le marché américain attendait un truc vachement plus abouti. Et donc, on pouvait compenser avec la France, avec le support, etc., avoir peut-être un produit un peu moins bien. On s'est dit, bah, quand on aura un peu plus abouti le produit, on se lancera à l'international. Après, ça fait rêver sur le papier de se lancer à l'international, mais concrètement, on a juste traduit le site.
Vous avez, bah, pas que, j'imagine. Vous avez fait des démarches aussi auprès des blogueurs aux US ou
oui bah voilà ça bien sûr on a adapté notre communication. Je contactais plus que les Français, on contactait toutes les langues, et puis on voyait en fait des points de présence se multiplier, parce qu'on, comme on a réussi à faire un produit qui était bien et très différent, les personnes nous recommandaient énormément. C'était ah putain, tu devrais essayer ce produit là, il est super, en plus le support est bien. Et dès qu'on arrivait à trouver une source un peu importante, on voyait les points se multiplier. Donc à un moment, on n'a pas su pourquoi. Ben, en Allemagne, notre chiffre d'affaires a explosé du jour au lendemain, parce qu'il y a dû y avoir un influenceur qui a dû l'essayer et puis qui l'a recommandé dans des groupes, des trucs. Et ça s'est passé un peu comme ça. Et donc on s'est internationalisé de cette façon en fait.
Ok. Et donc aujourd'hui, vous êtes 30, pour revenir un petit peu au télétravail, à la boîte distribuée. Comment vous arrivez à gérer cette boîte-là à 30 vous êtes sur combien de créneaux, de fuseaux horaires?
4-5. En vrai, je pense qu'il y en a deux réels, dans le sens où il y a la côte américaine.
Ouais.
Enfin, en gros, il y a le matin et l'après-midi.
Ouais.
Au tout début, c'était horrible. Enfin, en tout cas, quand on n'avait pas recruté ces personnes, pour nous, c'était terrible, parce qu'on commençait à avoir des clients américains, on avait cette promesse de support, et donc on travaillait mais comme des fous à répondre aux tickets à 4 heures du matin, parce que eux, ils attendaient depuis longtemps. Alors, on s'est dit, bon, à un moment, ça peut plus arriver comme ça. Et donc, on a commencé très rapidement à avoir des gens de plusieurs time zones, et c'est ça qui nous a, je pense, beaucoup aidé dans la gestion. C'est qu'il n'y a pas eu de changement, en fait. Ça a été naturel. On a eu la première qui nous a rejoint, c'est Lucie qui était à Los Angeles, et donc forcément elle avait des horaires différents, donc on s'est adapté en fait à la façon de travailler, et on fait ce qui s'appelle la communication asynchrone, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de s'appeler, de s'interrompre pour travailler en fait. On peut écrire des documents avec dire bon bah voilà, cette semaine il faut qu'on travaille là-dessus. On peut collaborer, mais si on n'est pas de façon instantanée tout le temps à déranger l'autre, bah, ça marche hyper bien en fait.
Et donc vous avez des outils spécifiques, j'imagine, pour travailler comme ça. Comment tu fais pour créer une impression d'esprit d'équipe à distance comme ça, alors que vous êtes éparpillé dans le monde entier, quoi?
Ouais.
C'est l'un des trucs qui fait peur, je pense, aussi aux entrepreneurs, hein, c'est de se dire comment tu fais pour créer une vie d'équipe, une équipe même, une impression d'équipe, alors que chacun est chez soi ou dans un café ou peu importe ailleurs dans le monde, en train de travailler tout seul dans son coin, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est très bizarre au premier abord. Après, je pense qu'il est hyper important, et ce qu'on a assez bien réussi à faire, c'est d'avoir une culture d'entreprise. Alors, c'est un grand mot, hein, mais c'est d'avoir d'être soudé en fait, de faire un truc différent. J'aime bien comparer les entreprises à non pas une famille, mais à une équipe de sport, tu vois, une équipe de foot ou de basket. Je crois que t'aimes bien le basket.
Ah oui.
et c'est en fait c'est ça, et c'est de réussir. Si t'arrives à inculquer quelque part et à donner une vision d'entreprise, à dire voilà, c'est ça notre objectif. C'est hyper, pourquoi c'est hyper bien de le faire, et voilà comment on va le faire, et en fait chacun de nous, on est adulte et on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Et moi, je suis pas là pour t'emmerder, pour contrôler ce que tu fais. En fait, ça se passe hyper bien. Et toute notre culture d'entreprise est basée là-dessus, sur la liberté, sur la différence. En fait, on est des gens hyper différents. Et c'est génial, en fait. Le monde serait, je pense, chiant si on était tous pareils. Et chacun apporte des choses différentes. Et forcément, il y a des conflits, mais c'est bien. Et on essaye de donner énormément de liberté et de confiance. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aussi ça coupe un peu toutes les barrières de communication, de surveillance. On n'a pas besoin, en fait. Si tu donnes un truc bien à faire aux gens qu'ils aiment bien, t'as pas besoin de contrôler, de faire le flic, en fait. Ça sert à rien.
Et alors, comment tu fais pour donner de la liberté, de la confiance à tes employés?
Bah, tu le donnes sans limite. C'est-à-dire que, on a pas mal de trucs un peu différents chez nous. Donc, la première chose où on est un peu radical là-dessus, c'est la transparence. Donc, en gros, à peu près tout est transparent chez nous, à la fois en interne et en externe. On le fait moins en externe, non pas parce qu'on n'a pas envie, mais parce que ça prend vachement de temps et puis c'est de la communication. En fait. Et donc, par exemple, on a une grille de salaire qui est publique. Donc, tout le monde a accès à nos salaires. Toi, n'importe qui, et c'est des critères qui sont objectifs. On explique un peu toutes les décisions d'entreprise. On communique énormément sur OK, pourquoi on fait ça, quelle est la raison pour laquelle on se sépare de cette personne. On communique, en fait, c'est la base des relations humaines. Et puis après, on leur dit, alors ça me faisait rire au début, maintenant un peu moins. Quand on recrute quelqu'un, au premier entretien, je leur dis, on est des adultes. Alors oui, une entreprise, c'est une espèce de boîte, c'est un truc un peu impersonnel, mais n'oublions pas que on est des humains. C'est nous qui faisons cette entreprise. On est tous différents, acceptons nos différences. Mais plus important, on est des adultes. Donc je vais te considérer comme un adulte. Si tu nous rejoins, c'est que tu as quelque chose à apporter et c'est toi qui doit nous l'apporter. Et pour ça, on doit te donner énormément de confiance. Pourquoi ça me faisait rire? C'est parce qu'à l'époque, j'avais 24 ans on avait des personnes plus âgées chez nous. Donc, je disais ça à des personnes de 35, 40 ans. Bon, je vais te considérer comme un adulte. C'était assez drôle. Et en fait, d'être hyper clair et de leur dire, tiens, c'est la carte de l'entreprise. Tout le monde a une carte bancaire de l'entreprise. On regarde pas les dépenses. On leur dit, voilà, t'es libre. Fais comme si c'était ton argent. Dépense-le de façon raisonnable. Si t'en as besoin, si t'as besoin d'acheter un casque, un micro ou autre, fais-le. Et en fait, ça marche super bien.
T'as raison. Je suis d'accord avec toi, mais ça paraît fou, quoi, tu vois, de l'extérieur, de te dire, chacun a sa carte. Donc, ça veut dire que vous avez 30 cartes bancaires qui traînent dans le monde entier avec.
Ouais, c'est des trucs virtuels, donc on peut les désactiver, okay. C'est ça, en fait. Et puis, c'est plein de choses. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre la mauvaise expérience qu'on a eue en tant que salarié, de dire pourquoi nous, on n'a pas aimé être salarié, parce qu'il y avait des règles, parce qu'on ne pouvait pas partir quand on voulait, parce que machin, et se dire, cassons le truc, en fait. C'est pas parce qu'il y a des règles aujourd'hui qu'il faut faire du mimétisme et faire comme les autres entreprises. On essaie de faire un truc qui nous ressemble, où on puisse être libre, ou si l'après-midi je veux aller à la piscine ou me balader en vélo, que je puisse, en fait. Parce que si c'est ma manière de travailler, que j'ai besoin de faire une pause de l'après-midi ou le matin, ou que je vais chez le docteur, ce qu'on leur dit, on s'en fout, en fait, ce que vous faites de votre journée, que vous alliez faire une pause ou autre. On a un travail à faire, on a une mission, on le fait ensemble. Et après, les détails, en fait, on s'en moque.
Parce que ça a l'air, ça a l'air très inspirant. Et vous êtes inspiré de boîtes qui existent comme ça? Vous avez des modèles de boîtes où vous êtes dit, tiens, en fait, il y a cette boîte-là qui fait ça bien et on aimerait bien.
Il y a une boîte qui nous a énormément aidé, qui s'appelle Buffer, que tu connais peut-être.
Oui, bien sûr.
Qui a énormément publié là-dessus. Ils font plein d'expérimentations sur leur manière d'organiser l'entreprise. Donc, pour nous, ça a été vraiment une très grosse source d'inspiration. Et puis après, c'est des essais. Et je pense que ce terme un peu galvaudé, mais c'est aussi le bon sens. Je pense que c'est important de réfléchir, de se dire, OK, comment je veux que ça fonctionne, comment est-ce qu'il n'y a pas plus de simplicité dans les relations au travail. Parce que c'est ce qu'on leur dit souvent, c'est que bah en fait 80% de ta vie c'est à travailler. Donc si ton travail c'est de la merde et que tu te fais chier, bah tu vas être triste dans ta vie. Donc moi mon but c'est que tu puisses être un minimum heureux dans ton travail, parce que dans ta vie personnelle ça va se ressentir, et puis si tu es heureux dans ta vie personnelle, bah au travail tu seras heureux aussi. Donc c'est gagnant en fait pour tout le monde.
Qu'est-ce qui fait selon toi que dans ta boîte ça fonctionnait pas comme ça? Dans ton ancienne boîte, pardon. en tant que salarié.
Je pense que c'est une habitude, enfin c'est une, sur le coup c'est une culture, et puis peut-être un biais cognitif quelque part de se dire bah toutes les autres boîtes font comme ça, un salarié doit être dans un bureau, on doit le contrôler, il doit avoir des horaires, sinon il va pas travailler. Et c'est hyper naturel, je pense. Enfin c'est le modèle. Après il y a ça aussi, il faut faire attention, c'est qu'on a la chance d'avoir on fait un produit, on fait un truc où vraiment on a de la passion, notre équipe est passionnée par ce qu'elle fait. Il y a des métiers où c'est plus compliqué, donc c'est où le travail est plus une contrainte. Nous c'est un truc génial ce qu'on fait. On est sur un ordinateur, on peut faire une pause. Enfin, il y a des métiers qui sont hyper difficiles et des gens enfin admirables qui font ça. Nous, on est royal dans ce qu'on fait, donc on peut aussi se permettre cette liberté qui serait beaucoup plus complexe dans d'autres métiers. On est privilégié, mais énormément.
Est-ce que vous avez déjà eu peut-être des salariés qui ont justement abusé de cette liberté et de cette confiance que vous leur donniez? Comment vous avez géré?
Il me semble pas qu'on l'ait eu. T'as toujours des façons. Des personnes qui vont en fait qui ont un rapport avec le besoin, alors pas le besoin mais plus l'usage un peu différent, c'est-à-dire que c'est assez amusant, mais c'est très culturel finalement en fonction des pays, c'est ça qui est assez fascinant. C'est qu'on leur par exemple on leur dit bon, vous avez quand vous arrivez vous avez un budget pour vous acheter un ordinateur, une table, une chaise, un machin, un écran, et puis tous les mois vous avez un budget c'est 250 € pour l'utiliser pour tout ce qui est votre travail à distance, parce que vous avez des coûts là-dessus, mais aussi tout ce qui peut vous aider à être en bonne santé. Donc si tu veux prendre une séance de kiné, faire du sport, un coach, machin, on les prend en charge. Et t'as toujours des personnes qui vont utiliser à 100% un peu le côté français. Ah, je peux pour te donner la comparaison, quand tu vas aux États-Unis, les boissons sont illimitées dans les fast-food. Et en général, tu vois un Français qui va remplir le truc à ras-bord pour être sûr d'utiliser, ou européen, parce qu'il n'a pas eu l'habitude de ça. C'est pas une critique. Et donc c'est une question d'habitude. Donc tu veux pas. On a toujours peur de manquer. Donc tu veux l'utiliser. Mais non, je pense pas qu'on ait eu d'abus.
Ce qui est plutôt cool, ça veut dire que vous êtes bon aussi en recrutement, quoi.
Ouais, après, je pense que il y a beaucoup de choses qui sont dans la vie en général où on a peur, mais en fait, si tu fais les choses différemment, ça se passe très bien. Pour te donner l'exemple concret, c'est les salaires. Tout le monde dit, ah, c'est tabou, l'argent en France, les salaires, les machins. Mais non, ça l'est pas. En fait, c'est la perception, qu'on a de l'argent ou du salaire qui est tabou. Mais en soi, nous, depuis le premier jour, on a mis cette grille de salaire, on n'a jamais eu de problème avec ça.
Ok. Je vois que sur votre site, vous avez une photo d'équipe en fait, où vous êtes sans doute dans un endroit paradisiaque. Est-ce que ça fait partie aussi des trucs où vous vous retrouvez à un moment donné, quelques fois dans l'année, c'est ça, pour souder un peu l'équipe, c'est ça?
Ouais, exactement. C'est une fois par an, on fait ce qui s'appelle les trucs de yoga, une retraite.
Ok.
on fait pas de yoga. Enfin, si, je crois qu'il y a eu des trucs de yoga, mais comme on n'a pas de bureau, et même si je suis intimement convaincu qu'on peut faire des relations personnelles à distance, parce qu'il faut pas oublier que là, par exemple, on est sur Zoom, mais il y a deux personnes derrière cet outil-là, des humains, et donc on peut développer ces relations-là. néanmoins de se voir, c'est quand même sympa d'échanger, tu fais des souvenirs communs. Je suis convaincu que les relations humaines se font beaucoup grâce à ça, grâce aux souvenirs humains. Et donc, partant de ce constat-là, on se dit une fois par an, pendant une semaine, un peu plus, un peu moins, on se regroupe tous ensemble dans un lieu sympa où on travaille. En fait, c'est des semaines normales. Et puis le soir, on mange ensemble, on boit des coups, on se raconte nos histoires. Et puis le week-end, on fait des activités ensemble. Et ça permet surtout de prendre des photos pour la boîte, parce que comme on n'est jamais ensemble. Et puis de voir, c'est hyper marrant parce que tu vois t'as des projections de la personne ou sur les tailles par exemple des personnes. Toi t'imagines une personne super grande ou petite et puis en fait tu la vois, mais c'est pas du tout à quoi elle ressemble. Alors t'as vu son image, mais c'est hyper intéressant.
C'est quoi les projets pour votre boîte là?
Il y en a pas. Non.
C'est mort.
Non, en fait, on a résolu quelque part ce problème de façon hyper simple. C'est que on veut simplement continuer à faire ce qu'on fait. C'est-à-dire, on adore ce qu'on fait et trouver d'autres solutions pour résoudre ce problème de accélérer les sites internet. Et donc, on a tout le temps des idées. On est assez créatif. On expérimente. Et puis, bon, il y en a qui marchent. Il y en a plein qui marchent pas. On a un nombre d'échecs incroyable. Et donc nos prochains projets, c'est de continuer dans cette voie, d'expérimenter sur le management. On met plein de trucs en place différents qui nous passionnent. C'est continuer en fait. On en a forcément des objectifs chiffrés, des choses comme ça, mais c'est pas le plus passionnant.
Bah, ça permet quand même à la boîte de grandir, quoi.
Oui, bah, bien sûr. Non mais c'est hyper important d'avoir l'objectif chiffré, mais c'est pas on est plus, enfin, me concernant, je parle pour moi, dans la mission, dans OK, comment on fait pour avoir plus de sites, que nos clients soient heureux, etc. Faire des millions, c'est bien, mais c'est, enfin, à la fin de la journée, c'est pas le chiffre d'affaires qui définit vraiment ta boîte, quoi.
C'est plutôt la mission de Jonathan, c'est ça, de s'occuper du.
Exactement. Ce chiffre. Et Monsieur Chiffre, oui. Après, ça reste des objectifs. C'est forcément essentiel d'avoir des objectifs marketing, de nombre de sites, de chiffre d'affaires. Et c'est hyper important. Mais les entreprises en général, c'est pas leur premier objectif, à mon sens, de faire un chiffre d'affaires. C'est un outil en fait. C'est un outil de mesure qui est hyper bien, l'argent. Mais ça reste qu'un outil de mesure.
Bah, merci beaucoup. Jonathan, n'importe quoi. Merci beaucoup, j'ai parlé de Jonathan, je te demande. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, c'était cool.
Merci à toi. Et j'en profite, désolé, je te coupe, de deux choses. Un, te remercier vraiment pour ton podcast, parce qu'il est, il est excellent. Ça me rappelle Nouvelle École que tu as, je pense, que tu as connu. Et c'est là où j'ai connu les podcasts. Et en fait, je trouve que tu as cette capacité de laisser parler les gens, ce qui est quelquefois un peu rare chez d'autres personnes. Je trouve ça vraiment bien. Et c'est vrai que je suis ravi d'être là et ravi d'écouter tes podcasts.
Ça fait plaisir.
Et citer une phrase qui m'a tourné longtemps dans la tête de tes invités, j'ai perdu son prénom, je m'excuse pour elle, qui est le titre, je crois, c'est Le Psy des Zèbres. La Psy des Zèbres, et qui disait, et cette phrase me hante, qu'on est responsable de la vie qu'on a maintenant. Et elle est simple, mais elle est tellement vraie et elle ouvre sur tellement de perspectives que c'est beau. Et bah, merci à toi de l'avoir invité.
Ah bah, trop bien, merci beaucoup, ça fait plaisir. Bah, je te souhaite le meilleur, et aussi qu'à Jonathan, et puis pour toute la boîte. Et puis bah, merci de... Ça fait donc maintenant 7 ans que vous accélérez Mademoiselle, et bah, vous faites sans doute partie aussi d'une des raisons du succès de Mad, donc c'est cool, quoi.
On est content pour ça, alors.
Un grand merci.
Et bah, de rien.
Salut.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to. Courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.